Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui commence et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un retour sur le conseil municipal rennais du lundi 15 mai, interview long format avec Nicolas Legendre et Jean-Sébastien Piel pour l'ouvrage Silence dans les champs, une enquête parue aux éditions Artaud. Il y aura de la musique dont une nouveauté choisie par notre paysan de la Confédération Paysanne et puis une recommandation, une ciné-conférence ce mardi soir. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour retenue pour vous. Aujourd'hui, c'est un compte-rendu de conseil municipal, puisque la dernière séance était hier, lundi 15 mai. Une séance à laquelle ont assisté 61 conseillers et conseillères municipaux et 58 délibérations étaient à l'ordre du jour. J'en ai retenu 6 pour vous. Le point numéro 1 concernait le chantier de rénovation de l'église Notre-Dame en Saint-Melaine. Montant total des travaux, 2,2 millions d'euros. Le chantier, il va s'étaler sur près d'un an et demi jusqu'à l'été 2025 avec au programme une reprise des charpentes en bois, remplacement des ardoises, restauration du vitrail et de la porte ouest et puis mise en conformité des installations électriques. Les offices se poursuivront sur la période des travaux. Réaction du groupe Renaissance Révéléraine à travers la voix du conseiller municipal Antoine Cressard.
Alors en octobre 2021, nous avions approuvé le programme de l'enveloppe prévisionnelle et cela avec d'autant plus de satisfaction qu'à cette occasion nous vous avions alerté sur le fait qu'il pleuvait régulièrement à l'intérieur du bâtiment et qu'il était donc grand temps de s'en occuper. Alors en effet, ces travaux ont été malheureusement reportés et négligés pendant des années, ce qui a eu pour effet d'accentuer la dégradation de l'édifice. La conséquence est que les travaux sont estimés aujourd'hui à 2,2 millions d'euros, ce qui n'est pas anodin. Il est à préciser qu'en 2021, l'enveloppe prévisionnelle s'élevait déjà à 1,8 million. Donc en 2 ans, le budget de cette opération a donc connu une hausse de près de 20%. Ces coûts prévisionnels en hausse ne sont cependant pas une surprise dans un contexte économique actuel compliqué. Et c'est pourquoi on ne peut que saluer la hauteur de l'engagement de notre collectivité ainsi que de l'État sur ce dossier de réhabilitation. Mais cet effort budgétaire ne doit pas nous faire oublier que d'autres édifices cultuels nécessiteront sans tarder également des travaux de réhabilitation, au-delà des travaux de maintenance habituels, car le patrimoine architectural et religieux de Rennes est souvent très ancien et donc très fragile.
Le point numéro 5 de la séance de conseil municipal concernait la patinoire Le Blize et c'est officiel, de nouveaux usages remplaceront l'activité patinoire de mi-juin à mi-septembre. Une décision liée au contexte de flambée des coûts énergétiques. Alors très concrètement, le patin à glace va céder sa place au patin à roulettes et à d'autres usages. Là aussi, réaction du groupe Renaissance Révéléraine qui craint une fermeture définitive de la patinoire dans le futur et redit son souhait de maintenir ce lieu destiné au sport de glace toute l'année en dehors de cette période que nous traversons. On passe au point numéro 9, l'attribution d'une subvention de 49 000 euros aux 14 athlètes rennais de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un contrat de parrainage et marrainage qui intègre aussi la direction académique de l'éducation nationale puisque les athlètes seront amenés à intervenir dans les écoles élémentaires de Rennes. Objectif, mettre en avant les valeurs du sport et de l'olympisme. Des athlètes en majorité féminine, tiens, dans des disciplines très variées, ça va du para-badminton au kayak en passant par le rugby ou encore le trampoline. Et pour les lieux d'entraînement, ce sont 10 équipements sportifs qui sont labellisés sur le territoire rennais. On passe au dossier bien-être animal avec la délibération numéro 18, l'adoption de la charte rennaise sur la condition des animaux. C'est un engagement du mandat de la maire socialiste Nathalie Appéré. Cette charte, elle a été élaborée à travers une démarche participative. Elle comporte 29 engagements déclinés en 105 actions à mener sur le territoire. Citons-en quelques-unes. La création d'une pension canine mobile en partenariat avec l'association Gamelle Plaine. Un accès qui deviendrait autorisé de façon exceptionnelle expérimentale pour les chiens dans le métro ou encore une révision des méthodes de régulation des populations de pigeons, puisqu'aujourd'hui, ça se fait à la pince coupante. Oui. On passe rapidement sur le point numéro 21, puisqu'il s'agit du 6e rapport sur l'égalité homme-femme présenté en Conseil métropolitain la semaine précédente et dont la ville de Rennes prend acte. Un bilan de l'action de la métropole sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte aussi pour une meilleure visibilité des femmes dans l'espace public et aussi sur le sujet de l'égalité professionnelle. C'était aussi l'occasion de dévoiler le nom de la future maison des femmes qui ouvrira à Rennes au mois de septembre et qui portera le nom de l'avocate et militante Gisèle Halimi. Ça claque. Allez, on termine avec le point numéro 46, la limitation de vitesse à 30 km/h qui va devenir la norme dans Rennes à partir du 4 septembre. Déjà, il faut dire que 75% des voies y sont déjà aux 30 km/h. Là, l'objectif, c'est 94% des 600 km de voies de circulation rennaises à 30 km/h. Toutes les voies de circulation seront concernées, sauf les axes structurants qui permettent d'entrer, de sortir ou de contourner le centre-ville. L'idée, c'est d'améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Et j'ai un chiffre parlant sur le sujet. Lors d'un choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h, le risque de décès est multiplié par 9 par rapport à un choc à 30 km/h. Ça a de quoi convaincre. Plusieurs communes de la métropole vont d'ailleurs suivre ce mouvement et passer aux 30 km/h. Saint-Jacques-de-la-Lande, Champy ou encore Vezin-le-Coquet pour les communes les plus proches de Rennes. La réaction sur ce sujet de Charles Compagnon, conseiller municipal du groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes.
À ce moment-là, je vais avoir une demande, mais qui ne s'adresse pas à vous, qui va s'adresser à notre élu à la sécurité. On va demander un renfort encore de policiers, une embauche de policiers municipaux, Valérie Faucheux, parce que aujourd'hui, ce que nous disent les quartiers, c'est qu'ils ne voient plus nos policiers municipaux après 20 heures et qu'il faut encore des effectifs pour assurer la sécurité. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé quasiment tout au long de ce conseil municipal. Mais si on veut pouvoir faire respecter ces 30 km/h, il va falloir des policiers municipaux qui fassent respecter et qui verbalisent et qui contraignent les automobilistes qui ne respecteraient pas ces 30 km/h.
Prochain conseil municipal, ce sera lundi 26 juin, toujours à partir de 17h à l'Hôtel de Ville à Rennes. Le replay des séances est à retrouver en ligne sur le site métropole.rennes.fr. Allez, après cette longue info du jour, c'est l'heure d'une interview, là aussi, long format. Nicolas Legendre, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes rennais, on peut dire rennais, de la région rennaise.
Oui, oui, on peut dire ça.
Journaliste et puis l'auteur de Silence dans les champs, un livre-enquête qui a été publié aux éditions Artaud au mois d'avril. Et à côté de vous, on a Jean-Sébastien Piel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paysan du côté de Saint-Perne, membre de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. Et il se trouve que vous êtes le fils d'un des personnages qu'on rencontre dans ce livre, Silence dans les champs, on va y revenir. Pour vous présenter un petit peu plus, Nicolas, vous êtes journaliste indépendant pour des titres comme Le Monde, entre autres. Votre truc, c'est le travail au temps long, le documentaire, avec, pour le citer, un travail sur les routes de la vodka, c'était en 2020. Là, on découvre au bout de quelques pages, l'un des points de départ à ce travail d'enquête, c'est que vous êtes fils d'agriculteur. Je me demandais si de le dire rapidement, c'est aussi peut-être pour rendre légitime tous les propos qui va suivre. On entend souvent dans le secteur agricole conventionnel que seuls les premiers concernés pourraient émettre des critiques sur ce système.
Oui, c'est une façon en tout cas d'être transparent déjà vis-à-vis de mon lecteur, de lui expliquer d'où je parle, d'où je viens. Ensuite, la question de la légitimité. Moi, j'ai plein de confrères qui traitent de la question agricole, qui travaillent en tant que journaliste sur les questions agricoles et agroalimentaires, qui ne sont pas du tout fils de paysans, qui font, je pense, très bien leur travail. Donc, c'est pas un prérequis. Après, moi, ça m'a servi effectivement pendant mon enquête parce que je connaissais un certain nombre de sujets. Et puis, parce que aussi, ça permet, mine de rien, d'ouvrir des portes, parfois de nouer plus facilement la confiance. Est-ce que c'est une manière de se légitimer ? On peut peut-être le voir comme ça. Est-ce que je l'ai pensé comme ça ? Je vais être totalement franc. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas traversé l'esprit parce que, effectivement, même si ce n'est pas la première raison, on a ce souci hein, qui traverse le monde agricole qui est lié, je pense, à la fracture entre la société, entre guillemets, et le monde agricole, avec un certain nombre d'acteurs du monde agricole qui disent vous pouvez pas parler de ce qu'on fait parce que vous êtes urbain, parce que vous êtes parisien, parce que vous êtes bobo, parce que vous êtes je ne sais quoi. Moi j'adhère pas à ces propos là, mais disons que me présenter comme fils de paysan, en plus de dire ce sont des faits, ça me permettait aussi d'évacuer directement ces remarques là.
Alors, silence dans les champs, ce sont plus de 300 pages d'enquête qui, moi, m'ont un peu retourné la tête parce que j'avais beau connaître pas mal d'éléments sur ce sujet, d'avoir toute l'histoire sous les yeux et puis surtout toutes ces voix, ça rend le constat ou les constats implacables. Peut-être avant d'ouvrir le livre, c'est qui en couverture ? On a un homme qui nous tourne le dos, qui est face à la mer. Je me suis demandé si ça renvoyait à l'image carte postale de la Bretagne qui va être un petit peu démontée dans le livre. Vous nous expliquez, le lien n'est pas direct avec
non. Non, c'est pas un agriculteur, c'est pas un paysan, c'est un ami du photographe qui a pris cette photo, qui s'appelle Stéphane Lavoué, qui est un très grand photographe breton. Et on l'a choisi avec l'éditeur, cette photo, principalement pour l'ambiance et l'atmosphère en fait, qui correspond à celle du livre.
Sur des teintes grises et noires. Alors, silence dans les champs, 7 ans d'enquête, près de 300 témoignages recueillis. Pour récolter cette matière, c'est d'abord un travail pour le quotidien Le Monde pendant 4 ans, période pendant laquelle vous couvriez les sujets sur le thème de l'agroalimentaire et du monde agricole. Et en 2021, vous passez à un vrai travail d'enquête. C'est quoi le lien entre ces deux périodes-là ?
Bah disons que la période d'enquête à plein temps pour le livre, c'est 2021 à 2023, donc c'est 2 ans à temps plein. C'est beaucoup, mais en même temps, ça n'aurait pas été suffisant s'il n'y avait pas eu ces 5 années qui avaient précédé, pendant lesquelles j'étais correspondant du Monde en Bretagne, et durant lesquelles j'ai traité des questions agricoles au fil de l'eau, au fil de l'actualité. Ça m'a permis de me familiariser avec un certain nombre de sujets, parfois techniques, et puis aussi de rencontrer des paysans, en fait, beaucoup. Aussi en travaillant en tant que pigiste, toujours pour Breton en cuisine, où là je faisais des reportages chez des producteurs, en fait, des gens qui sont dans des modèles un peu à rebours, dans des choses très qualitatives. Donc en fait, je suis rentré dans des fermes, beaucoup, et j'ai rencontré beaucoup de paysans, et ça m'a permis d'avoir un certain nombre de contacts, et puis de sentir aussi ce qui est l'un des points de départ du livre, savoir l'espèce de grand burn-out dans le monde paysan, ce malaise, cette perte de sens qui est exprimée.
Mais justement, si on essaye de résumer un peu les choses, la disparition progressive des paysans, elle n'est pas due au hasard. L'endettement des agriculteurs restants, l'asservissement des salariés de l'agroalimentaire et l'altération des écosystèmes non plus. Ce choix de modèle, il a été volontairement construit dans la période d'après-guerre et soutenu politiquement jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est bien résumé ?
Oui, ça a été volontairement construit. Et en même temps, personne à l'époque ne s'est dit ni n'a dit franchement... Bon bah écoutez, c'est vers là qu'on va aller. On va diviser par 5 le nombre de fermes, diviser par 5 le nombre de paysans, augmenter par 5 la surface de chacune des fermes, et on va entraîner une disparition des oiseaux et des insectes, on va en tout cas y contribuer, une transfiguration en profondeur des paysages qui va entraîner des altérations des écosystèmes qui créeront des problèmes en chaîne. C'est-à-dire que personne en 1962 n'a dit ça, n'a posé ça. Il y avait beaucoup de bonne volonté en fait à l'époque, mais effectivement il y avait aussi cette idée d'aller vers le progrès, cette idée de la marche en avant en fait qui allait de pair avec l'intensification, avec la standardisation des produits aussi, et qui a entraîné tout ça. Donc en fait c'est un peu ambivalent tout ça.
Cette marche en avant, elle passe quand même très rapidement par, on va employer le terme d'élimination, mais de la mise au banc des moins productifs. Ça permet de parler de ce personnage. Alexis Le Gourvennec, un des personnages qui a influencé l'histoire de l'agriculture bretonne. Il est finistérien du Léon, plus précisément, décrit comme très charismatique et violent, à l'image de l'empire qui va se construire. Et lui, il le dit, nous devons abandonner à leur sort les minables qui ne nous intéressent pas. C'est à ce prix que nous gagnerons la bataille de la productivité. Il en est déjà question. En fait, à ce moment-là.
Oui, c'était là, on est en 1976. Alexis Gourvennec est devenu un notable, en fait, un baron. Il a commencé comme petit paysan. Et c'est l'un de ceux qui exprime le plus clairement, en fait, cette idée à l'époque. Parce que déjà, à l'époque, c'est pas très politiquement correct. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui, hein, y compris dans le Finistère, y compris à la FNSEA. Mais lui, il l'exprime clairement, cette idée. Il est sur une frange plutôt libérale, voire très libérale. Et il dit effectivement que les plus forts doivent rester. Et les plus forts resteront.
Je tiens à préciser que j'ai lancé, on cite la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, j'ai lancé tardivement, je l'avoue, mais j'ai lancé une invitation à l'antenne départementale de ce syndicat majoritaire dans le secteur de l'agriculture. FNSEA qui, je vous cite Nicolas Legendre, s'est progressivement érigé en forteresse toute puissante et tient son nouveau président, il a deux casquettes, il est céréalier mais il est aussi président du puissant groupe Avril qui se trouve être le numéro un des huiles de table, entre autres activités. On arrive donc au sujet des liens entre agriculture et industrie. Ce sont deux secteurs qui avancent aujourd'hui sur le fil, toujours main dans la main, qui connaissent un phénomène de concentration. Et l'autre point commun, c'est qu'à la ferme comme à l'usine, il y a un effet d'asservissement qui est observé, asservissement à la coopérative ou alors au patron et à son entreprise. Mmh.
Tout à fait, ouais. Mais vous avez plutôt bien résumé le
j'essaye de
le
synthétiser
tout, tout ça va de pair en fait, c'est-à-dire que on n'a pas cette agriculture industrielle si à l'autre bout du spectre on n'a pas non plus la grande distribution qui est un acteur très important, et on n'a pas la grande distribution si on n'a pas cette agriculture là et entre les deux on a effectivement des coopératives. On a des firmes qui vendent des machines et ou des intrants. Et on a tout un tas d'acteurs du conseil, notamment conseil technique en culture, conseil aussi financier. On a des banques. Et en fait, tous ces acteurs sont finalement parties prenantes de ce système. Et quand certains s'offusquent de voir que Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA, a un pied dans le monde paysan et un pied également dans le monde agro-industriel, bon, moi j'ai tendance à penser que c'est simplement en fait assez naturel pour un syndicat qui accompagne cette industrialisation depuis plusieurs décennies maintenant.
Et la porosité entre ces deux secteurs, on peut aussi l'observer avec des fils d'agriculteurs qui, là aussi c'est assez naturel ou culturel, mais qui finissent par arriver dans le monde de l'industrie.
Oui, il y a différents caractères dans ce monde agro-industriel. Il y a un côté dynastique. Avec des fils d'eux qui deviennent responsables, par exemple, de coopératives. Il y a un côté oligarchique aussi, des liens de cooptation entre certains acteurs, parce qu'il faut savoir que les sièges sont très nombreux. Il y a beaucoup de conseils d'administration, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de jetons de présence aussi. Donc il y a des liens comme ça qui sont parfois incestueux entre le monde paysan, le monde agro-industriel, un certain nombre de banques aussi, et qui font que les choses peuvent être plus faciles pour certains dans leur ferme que pour d'autres, en fait, parce qu'ils ont les bons postes ou les bons réseaux.
Et quand on parle de concentration, pour vous donner un chiffre, en 2019, les 10 principales entités économiques bretonnes de ce secteur agroalimentaire représentaient 16,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 000 emplois. La question de l'emploi souvent mise en avant pour justifier la poursuite de ce modèle agricole. Je me tourne vers Jean-Sébastien Piel, qui a lu « Silence dans les champs ». Vous êtes membre de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine, un syndicat qui, pour faire vite, défend une agriculture durable, notamment pour ses paysans. Le livre refermé, vous vous êtes dit quoi? Vous avez quand même appris des choses ou c'était un sujet que vous maîtrisiez?
Moi, je me suis plongé avec délectation et curiosité, en tout cas dans cet ouvrage-là. C'est quelque chose en fait de très fort qui ressort et qui relate, en tout cas, une histoire de la Bretagne autour de d'après-guerre en fait, hein, qui fait les mêmes constats qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut nourrir la planète, hein, alors qu'on est 50 ans après, mais qui reprend en tout cas l'histoire. Et je pense que ça permet à tout le monde, paysans, mais aussi citoyens, de comprendre là où on vient, comment ça s'est construit avec cette place de l'office de Landerneau, qui a une place prépondérante dans la construction en fait de l'agriculture bretonne et de l'industrie agroalimentaire. C'est assez énorme et conséquent avec ces mêmes structures qui existent aujourd'hui. On parlait tout de suite de la FNSEA, Xavier Belin, qui était aussi un des anciens présidents de la FNSEA, avait les mêmes profils que M. Rousseau aujourd'hui. Donc il y a vraiment un lien direct en fait de la construction en fait de l'agriculture post-après-guerre et l'agroalimentaire en fait derrière. aujourd'hui, c'est vrai que c'est un livre avec une écriture assez, assez limpide, argumentée, avec des références, des faits, une biographie assez, assez puissante. Hein. C'est aussi des discussions qu'on a, nous, avec nos clients, nos collègues, qui se sont délectés, en tout cas, de cette lecture-là, qui leur ont permis aussi de prendre un peu de hauteur sur ce que nous, on témoigne peut-être au quotidien en tant que paysans, paysannes, qui faisons partie des minorités, comme c'est expliqué aussi dans le livre, hein. Mais on se sent moins seul avec la société civile. On s'est construit, nous, une autre forme d'agriculture et de lien avec la société civile par le fait qu'elle est devenue opaque depuis plus de 30 ans, quoi.
Vous avez cité l'Office central de Landerneau. Il faut redire le rôle joué par cette structure, Nicolas Legendre.
Oui, alors pour le dire rapidement, c'était un regroupement de syndicats, de micro-syndicats agricoles et d'organismes, de mutuelles notamment, de mise en commun d'un certain nombre de groupements d'achat, ce genre de choses, qui a exercé dans le Finistère entre le début du XXe siècle et les années 60-70, qui a acquis une importance considérable, hein, dont le leader charismatique Hervé Butte de Guébriand était un notable du secteur, a été un inspirateur, on peut dire, pour la politique agricole du maréchal Pétain, a obtenu un certain nombre de décorations de la République après-guerre. Et donc cet office central de Landerneau a donné naissance notamment au Crédit Mutuel de Bretagne, à la branche bretonne de l'assureur Groupama, à la coopérative désormais géante Eureden, qui était autrefois Copagri, et au journal Paysan Breton. Donc ça fait beaucoup.
Pour continuer à plonger dans cet écosystème d'acteurs industriels, mais aussi bancaires, avec ce livre qui est sorti au mois d'avril, Silence dans les champs, on poursuit avec une interview long format dans un instant. On fait une pause musicale, c'est le choix musical de Nicolas Legendre, le morceau Ain't No Grave de Johnny Cash.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Thank you. Johnny Cash et son morceau Ain't No Grave sur Canal B. Vous êtes dans l'émission d'information locale et c'était le choix musical de Nicolas Legendre, notre invité aujourd'hui avec Jean-Sébastien Piel pour parler du livre Silence dans les champs. Quelques lignes peut-être de la quatrième de couverture de cet ouvrage dont on parle aujourd'hui. Comment le définir, le système agro-industriel? Féodalité répondent les uns, esclavage moderne disent les autres, oligarchie ou mafia jurent certains. Mafia, le mot est prononcé, et à travers 48 témoignages d'hommes et de femmes, anonymes pour beaucoup, on comprend pourquoi, vous observez, Nicolas Legendre, une concordance d'événements fâcheux, c'est l'expression qui est employée, très concrètement des menaces, pressions, intimidations, entraves, harcèlement ou encore actes de sabotage, qui visent, il faut le dire, de façon non orchestrée, il ne s'agit pas d'un grand complot, ceux qui s'opposent au système majoritaire. C'était dur de récolter ces témoignages ?
Oui, ça a été compliqué parce que au départ, j'avais que des rumeurs parfois. J'avais que des bribes d'informations. Certains témoignages remontaient à un certain nombre d'années. Donc, il y avait peut-être prescription. Et ensuite, c'était aussi difficile parce que je pense un certain nombre de gens qui ont pu subir tout ça. Qu'il s'agisse de paysans ou de militants environnementalistes, c'est des choses qui ont été intériorisées en fait, qu'ils ont considérées comme étant non pas acceptables, mais en tout cas ça faisait partie de leur, ça faisait partie de la vie quoi. C'était comme ça. Ils étaient par exemple paysans encartés dans un syndicat minoritaire. On leur a fait les pires misères pour l'accès au crédit ou au foncier, mais finalement il n'y avait pas de guichet où se plaindre. Et c'était comme ça, quoi. Et donc, il a fallu déjà trouver, aller à la rencontre de gens qui avaient pu subir ce genre de choses. Je précise que c'est pas systématique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un pas de côté ou qui ont critiqué le système dominant n'ont pas subi ça. Et donc, il a fallu les rencontrer. Ensuite, il a fallu les faire parler. Et parfois, pour certains, leur faire se rendre compte
que c'était pas normal,
que c'était anormal et que ça participait à quelque chose qui ne les concernait pas qu'eux et qui était peut-être systémique.
Dans l'ouvrage, on croise Ali Romdani, qui est sociologue, qui plutôt que d'ordre mafieux préfère parler d'ordre social breton, même s'il explique qu'on retrouve des ressorts propres au système mafieux. Moi, j'ai en tête les menaces assez récentes qu'a subies une journaliste en radio locale dans le Finistère, membre au passage de la Corlab, dont Canal B fait aussi partie. Elle travaille sur les mêmes sujets que vous, songe d'ailleurs à arrêter, suite notamment à des actes de déboulonnage sur sa voiture. Quand on plonge dans un tel travail d'enquête sur plusieurs années, comment est-ce que le journaliste, lui, il cohabite avec ses ombres, pour reprendre le mot que vous employez souvent ?
Il dort mal, déjà. Et ensuite, non, mais concrètement, j'ai pris des précautions dans mes méthodes d'enquête, dans la protection de mes sources, notamment. Et puis, je suis resté vigilant, quoi, tout au long de l'enquête, et je le suis toujours. Après, j'ai pas subi ni pression, ni menace, ni représailles à ce stade. Et tant mieux. On n'enquête pas sur la mafia sicilienne. Faut toujours le redire. C'est certainement nettement moins dangereux. Néanmoins, effectivement, il y a un ordre social qui fait qu'il y a des formes d'autocensure dans la société bretonne, des formes de pression aussi sur certaines des personnes qui mettent en lumière les dérives de ce système. Donc, ça peut être compliqué.
Un des personnages qu'on croise dans le livre le dit, on le lit aussi en quatrième de couverture, c'est pas la Corse ici, on te tue pas, c'est plus subtil, c'est sournois, la peur, point de suspension. Je conseille vraiment la lecture de ce livre, Silence dans les champs, sa force, c'est la multiplicité de témoignages au sein mais aussi hors du système conventionnel. On croise évidemment des paysans ou des exploitants agricoles selon la façon dont ils se considèrent, mais aussi des élus, des professionnels, vétérinaires, banquiers, fonctionnaires. À plusieurs reprises, Nicolas, vous déboulonner le mythe de la Bretagne qui serait une région agro-industrielle un peu par nature qui ne pourrait pas fonctionner d'une autre manière, notamment en portant la voix de ceux qui se sont opposés au système majoritaire. Et on finit ainsi la lecture pas très loin de Rennes, à Saint-Perne. Jean-Sébastien Piel, c'est votre ferme, la ferme du pressoir qu'on découvre. Elle ressemble à quoi aujourd'hui cette ferme ? Peut-être pour la présenter aux auditeurs.
La ferme du Pressoir à Saint-Perne, nord-ouest Lille-Vilaine, hein, c'est une ferme sur 68 hectares de céréales, de protéagineux conduits en agriculture biologique, avec un élevage de porcs en bio plein air. On est 5 sur la ferme. La ferme a beaucoup évolué depuis 1976, date à laquelle mon papa Michel, qui était témoigne dans le livre de Nicolas, a évolué. Il est parti en tout cas de système classique hors sol, aliéné au système agroalimentaire où on maîtrisait aucune décision, aucun choix, aucune orientation, à un système où aujourd'hui on est hors système. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué depuis 40 ans hein, sur la ferme. Mais par rapport à ce qui est dit régulièrement dans les témoignages, ce qui nous sauve, c'est notre silence. C'est redit à plusieurs reprises, que ce soit par des ouvriers, des abattoirs, que ce soit des techniciens, des élus, des paysans ou des paysannes. Notre histoire sur la ferme, c'est de pas avoir été silencieux, d'avoir dénoncé, lutté, agi et proposé des choses collectivement. Et ça, c'est une force parce qu'on voit bien la casse sociale et le plan de licenciement, en tout cas à forte échelle en fait de la Bretagne au niveau du monde paysan, mais aussi des conditions en fait salariales qui sont plus ou moins mis en avant aussi dans le livre et dans plusieurs ouvrages depuis un certain nombre d'années. Donc comment on agit collectivement pour peut-être adapter les projets actuels, le système actuel et montrer qu'il est possible de proposer d'autres formes collectives de coopération qui aujourd'hui, on voit bien en fait que on arrive au bout d'un système à bout de souffle.
Là où s'est opéré un véritable tournant pour votre père, c'est quand dans les années 80, il a décidé de remettre ses porcs en plein air. Et puis il y a ce projet à contre-courant dans les années 90, mené entre autres par votre père Michel Piel, qu'on retrouve dans le livre « Silence dans les champs ». Ce projet, c'est l'idée d'une boutique menée par les producteurs, par les paysans, justement peut-être aussi pour créer du lien avec le consommateur. Boutique dans laquelle vous vendez toujours vos produits aujourd'hui.
Oui, magasin Brin d'Herbe à Champy et Vezin autour de Rennes s'est créé en 1992 à l'initiative d'une dizaine de paysans, accompagnés par des réseaux hors système agroalimentaire, mais dont l'idée c'était de retrouver du sens, une juste rémunération et de proposer en fait des produits de qualité localement et de recréer du lien en fait entre ville et campagne. On parlait beaucoup à cette période-là, les années 90, de recréer du lien entre les villes et les campagnes parce que cette opacité en fait du système a fait que la société civile, les consommateurs ne voyaient plus d'animaux en fait dans les champs. D'où ils viennent en fait les cochons quoi. D'où vient le jambon et la saucisse et... les choix qui n'ont pas été simples au début des années 80, entre autres sur la ferme dont papa a fait partie, Michel a fait partie avec d'autres en Ille-et-Vilaine, mais en Bretagne, de sortir du système pour recréer en fait autre chose, d'autres formes de coopération qui passaient entre autres par la valorisation et par des filières en fait économiques. Et Brin d'Herbe a découlé en tout cas de cette réflexion qui a duré quelques années, d'aller voir ailleurs, de faire de l'éducation populaire aussi, hein, c'est-à-dire du coup d'aller rencontrer des gens, voir ce qui fonctionnait, les freins, les leviers, on va dire comme d'une certaine manière ce qui s'est fait dans les années 60, qui a construit en fait le système qui est à bout de souffle aujourd'hui, mais avec des valeurs fortes et un contexte aussi aujourd'hui d'enjeux de renouvellement des générations d'agriculture, de contexte climatique, de retrouver du sens en fait au niveau aussi social quoi.
Brin d'Herbe qu'on retrouve aujourd'hui sur deux sites, à Champy et à Vezin-le-Coquet, tout près de Rennes. Question pour vous, Jean-Sébastien, dans le livre on découvre que ce choix là d'un autre modèle par votre père, il est regardé très curieusement par la génération précédente, donc la génération de votre grand-père, ça a fait causer dans le village à l'époque. Est-ce que ce regard a changé sur ceux qui font un pas de côté?
Non, globalement ça n'a pas changé. que ce soit dans les années 70, les choix qui étaient faits, il est question à un moment de l'histoire de Marcel Donnec et de Saint-Malo-Grand, pas très loin en tout cas de notre lieu d'habitation. Il y a eu des actions, des manifestations dont fait partie Michel, en tout cas dans les années 70. C'était mal perçu par le monde agricole et entre autres son père qui était très mal à l'aise, mon grand-père, mal à l'aise par rapport à ce type de situation. Qu'est-ce que vont dire les gens? Ces choix-là n'ont pas été évidents dans la construction, on va dire, de filiales, familiales. Mais je pense qu'il le dit très bien qu'à l'enterrement de mon grand-père, il a témoigné fortement, en tout cas, et de dire merci pour ce que tu as fait et ce que tu as transmis. Il a passé un message fort dans une enceinte catholique qui aurait pu être faite partout en Bretagne pour à la fois remercier et dénoncer un système qui est à bout de souffle, quoi. Et quand on fait un pas à côté, c'est jamais évident, il faut bien s'entourer, bien construire en fait les projets alternatifs, quoi.
Nicolas Legendre, je me retourne vers vous pour vous poser une question sur ce qui a suivi la publication de cet ouvrage sorti au mois d'avril aux éditions Artaud. J'ai été surprise de peu lire ou entendre de retour de la FNSEA qui est explicitement citée dans le livre, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Le seul acteur qui a vous a donné une réponse à vos questions, c'est le Crédit Agricole, le principal financeur du monde agricole en France et en Bretagne. Des banques qui, vous le dites, jouent un rôle à la fois important et dissimulé. La réponse du Crédit Agricole, on peut dire qu'elle est plutôt lisse, convenue.
Oui, c'est une réponse qui a sans doute été visée par des communicants, et c'est bien normal hein, pour une banque de cette envergure. Pas de réponse par ailleurs de la FNSEA, et depuis la publication, on a quelques réactions de ci, de là, notamment du président de la Chambre régionale d'agriculture, André Sergent, qui lui-même a encarté au syndicat majoritaire, qui a dit qu'il n'allait pas lire le livre, et dans le même temps qui a dit que je n'avais pas le droit, je cite, de cracher sur l'agriculture bretonne. Bon, ça lui appartient, je vais pas revenir en détail, j'ai fait une réponse moi sur les réseaux sociaux. Non, en fait, ce qui prédomine depuis la sortie du livre, hormis moi tous les messages que je reçois, c'est-à-dire je croule littéralement sous les messages de gens qui me racontent aussi leur propre parcours et en quoi le livre fait écho à ce qu'ils ont pu vivre. Ce qui ressort sinon, c'est le silence assourdissant qui colle avec le titre du livre d'un certain nombre d'instances agricoles.
La bonne nouvelle, c'est quand même que le livre a trouvé un bon écho médiatique. Hein. Vous avez été invité partout.
Oui, on ne peut pas se plaindre de ce point de vue-là, effectivement.
Je voulais terminer avec une citation. « On fait semblant d'évoluer, on promeut l'agriculture biologique après l'avoir conspuée durant des années, tout en introduisant dans les filières durables des logiques capitalistiques qui les déstabilisent en profondeur. On affiche des portraits de sympathiques petits producteurs du coin à l'entrée des supermarchés, tout en proposant en rayon de la bidoche brésilienne et des kiwis néo-zélandais. On fait semblant de régler les problèmes, etc. etc. » Quand tout est dit, quand vous montrez dans ce livre par A plus B que le système agricole conventionnel est à bout de souffle, que le climat ne peut plus attendre et que finalement rien n'est fait, comment, dans quel état d'esprit on se trouve?
Moi, je suis lucide en fait par rapport aux impasses dans lesquelles on se trouve actuellement, impasse sociale, impasse, enfin je pense être lucide, impasse environnementale, impasse humaine, mais je constate en fait que des alternatives sont prêtes, c'est-à-dire certains les mettent en pratique. C'est le cas de Jean-Sébastien à mes côtés, d'un point de vue agronomique, mais pas que, hein, parce qu'il s'agit aussi là de liens sociaux, de politique commerciale aussi. Donc des alternatives sont prêtes, certains les mettent en œuvre, et par ailleurs, on a, si on prend que la France, on dispose d'un réseau de recherche et de développement qui est important quand même, avec notamment l'INRA. L'INRA qui est un outil, finalement, dont la puissance publique fait ce qu'elle décide de faire. Donc, je suis lucide, j'essaye de pas voir les choses, de pas être optimiste béat. De toute façon, le livre ne respire pas l'optimisme. Mais en même temps, je vois aussi qu'il y a énormément d'énergie, en fait, qui sont là, qui sont disponibles, qui sont prêtes.
L'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Pour info, je vous représente tous les deux, Nicolas Legendre, donc auteur de Silence dans les champs, un livre enquête qui a été publié aux éditions Artaud le 12 avril. Et puis à côté, Jean-Sébastien Piel, paysan à Saint-Pern et membre de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine, dont on voit aussi apparaître le nom à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Puisqu'on n'est pas très optimiste, on se quitte avec un morceau que vous avez choisi, Jean-Sébastien, ça s'appelle Swallows, morceau d'un groupe d'agriculteurs, Inspecteur Clouseau. Pourquoi vous l'avez choisi ?
J'ai choisi The Inspecteur Clouseau parce que c'est musicalement c'est rock, folk et vraiment c'est entraînant et deux artistes paysans du sud-ouest qui montent sur scène, qui passent des messages et musicalement c'est vraiment au top. Donc voilà, je tenais à leur dédicacer ce moment-là.
Où il est question d'hirondelles ?
Il est question, ouais, d'une hirondelle, ouais, c'est assez glauque, alors que je voulais finir sur un message positif, globalement, de dire que voilà, c'est possible d'envisager une politique agricole, alimentaire sur le territoire et de montrer qu'on peut dépasser, en tout cas, le système et, qui est perfusé par de l'argent public et de montrer que c'est possible de faire autrement. Là, ben, ouais, c'est l'image d'une hirondelle qui veut nourrir ses petits sous un hangar, comme dans beaucoup de fermes, mais qui se trouve en fait à chaque fois qu'elle fait des allers-retours diminuée par les possibilités de trouver des insectes dans les champs avec des champs qui sont anéantis et remombrés.
Merci beaucoup à tous les deux.
Flying high above the prairie, plenty of birds to eat. When the sun comes up, when the sun goes down, that's when I'm spinning around and around, catching bugs to feed my young. They say they need to feed the world. They say they need to use more chemicals for that. They say they are so many mouths to feed, but I've got a mouth to feed. To the nest, to the bees in the barn. My young ready to eat those bugs. Their mouth held wide whole, catching bugs to feed my changing. They say they need to use more genetics for that. They say there are so many mouths to feed, but I've got. I've got the swallows gonna build their nest? Where the swallows gonna build their nest?
Swallows par Inspecteur Clouseau sur Canal B. On peut dire que c'est la nouveauté musicale du jour puisqu'il s'agit d'un morceau qu'on retrouve sur le dernier album qui s'appelle Horizon, album sorti début 2023 chez Fuck the Bass Player Records. C'était le choix musical de Jean-Sébastien Piel, paysan à la ferme du Pressoir à Saint-Perne, également membre de la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. Je le dis de temps en temps, si vous avez une action ou un événement à mettre en lumière auprès des auditeurs, que ce soit avec une association ou autre type de structure, tant que l'objectif n'est pas purement lucratif, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous proposer de vous rencontrer sur le terrain sous forme de reportage ou en studio avec une interview. La dernière solution, c'est aussi de l'annoncer sous forme de billet. Bah tiens, d'ailleurs, c'est l'heure. Puisque chaque jour, on termine l'émission d'information locale avec une recommandation. Alors là, on court ce mardi 16 mai à 19h au ciné du TNB, le Théâtre National de Bretagne, pour une ciné-conférence sur le thème Migration et Bretagne à travers le cinéma. C'est une séance proposée par la Cinémathèque de Bretagne et Bretagne Culture Diversité, en compagnie de Gilles Olivier. Il est chercheur indépendant et membre du comité scientifique de la Cinémathèque de Bretagne, et puis aussi en compagnie d'Anna Kéré, elle responsable éditoriale de l'encyclopédie numérique Bécédia dans l'association BCD, BCD pour Bretagne Culture Diversité. Alors longtemps, la Bretagne a été une terre que l'on devait quitter. Ils ont été nombreux, hein, ces Bretons, à partir s'installer dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Mais la péninsule bretonne est aussi un territoire où l'on arrive, où l'on trouve refuge. Des cinéastes amateurs, militants, documentaristes ont filmé à leur manière ces itinéraires de la migration. Ce sont 5 films qui seront à découvrir. Des films tournés entre 1953 et 2003. Tarif de la séance 5 euros. Pour plus d'infos, il y a le site internet t-n-b.fr. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.